et rien faire sans amour. Mais quel amour? Ça, c'est la question.
Un podcast, une œuvre. Marc Chagall, Autour d'elle, 1945. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un podcast, une œuvre, une émission du Centre Pompidou. Pour cette saison, nous allons vous parler d'exil, un thème qui résonne avec l'actualité et qui traverse l'histoire de l'art. Un sujet qui nous permet de partir à la rencontre d'artistes qui ont connu l'exil ou qui travaillent en lien avec des personnes concernées. Dans ce premier épisode, nous vous proposons de découvrir la peinture titrée « Autour d'elle », réalisée par Marc Chagall en 1945, alors qu'il est en exil aux États-Unis. Marc Chagall est né en 1887 à Vitebsk, en Biélorussie. Il est mort en 1985 à Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France. Il a donc traversé le siècle et les frontières. Dans cet épisode, nous entendrons deux témoins attentifs de l'œuvre du peintre. Itzhak Goldberg, historien de l'art et auteur d'un livre de référence consacré à Marc Chagall, ainsi que Marc-Alain Wagnin, rabbin et philosophe. Ils évoquent tour à tour l'enfance, la mémoire, l'exil, le judaïsme, mais aussi Paris, New York et la ville natale de l'artiste en Biélorussie. Mais écoutons d'abord Catherine Lascaux, conférencière qui nous présente l'œuvre titrée « Autour d'elle » de Marc Chagall.
La première chose qui frappe, ce bleu intense. Et le visage du peintre, tête renversée dans une position impossible. Le trajet de l'œil part de là, en bas, à gauche du tableau. Ce visage renversé, de face, a les yeux grands ouverts, comme hébétés. Derrière lui, une toile, avec une dominante bleue posée sur un chevalet. On n'y distingue qu'une tête d'animal au milieu de quelques feuilles. Le peintre tient une palette. Cette palette ressemble à un vitrail. Trois losanges à peine tracés sur le fond bleu sont recouverts de taches orange, jaune, rouge. Occupant le bas de la toile, des formes moutonnantes bleues, des nuages, des chairs entremêlées, de gros édredons. Elles servent de base à la figure de Bella qui occupe toute la partie droite. Une figure en buste, vue de trois quarts face, pensive, tête légèrement inclinée, joue posée sur sa main. Son regard vide est dirigé vers la tête renversée du peintre. Mais on ne sent aucun échange de regards. Chacun est dans son monde. Elle porte une robe à manches longues d'un rose tyrien très lumineux à petits boutons jaunes. Juste derrière le dos de Bella, une traînée blanche semble d'abord une forme abstraite, mais le regard la suit, monte et découvre qu'il s'agit de la longue traîne d'un voile. Le voile de mariée de Bella, flottant dans les airs, dans les bras de Chagall. Les mariés sont en lévitation, presque à l'horizontale, et se détachent sur un fond de branches fleuries qui leur font comme un halo. Prolongeant le voile et le halo, une grande forme bleuâtre devient le corps immense d'une figure féminine aux cheveux rouges, la tête en bas, comme une sirène, une acrobate, un ange. Entre elle et Bella, une grande sphère lumineuse occupe tout le centre du tableau. Comme dans une boule à neige, une petite ville est enfermée. Au-dessus des maisons, dans le ciel blanc, un astre étrange, à la fois lune et soleil, enferme deux croissants dans un cercle jaune. L'ange acrobate désigne de la main tendue l'un des bâtiments qui ressemble à la synagogue de Vitebsk, où Chagall et Bella se sont mariés en 1915, 30 ans avant la mort de Bella. En haut, à gauche, une colombe vole vers le centre du tableau et tient dans une main une bougie allumée. Derrière la colombe, trois ou quatre fenêtres d'un bleu presque noir. Le cercle se referme ainsi et le regard l'a parcouru sans discontinuité très naturellement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
C'est une peinture figurative qui est, on peut parler d'une narration fragmentée.
Itzhak Goldberg, historien de l'art.
Puisqu'on a des éléments, et c'est pas on vous raconte pas une histoire comme dans la peinture classique, mais le spectateur qui connaît tout petit peu l'œuvre de Chagall, il peut reconstituer en quelque chose ce que Chagall essaye de dire à travers ce fragment, en l'occurrence ici, où on sait qu'il s'agit d'un tableau qui était fait après la mort soudaine de sa femme en 1944 aux États-Unis. Et on a en quelque sorte une peinture de deuil, puisque Chagall a eu beaucoup de mal à peindre après. Mais de toute façon, on y trouve pratiquement tous les thèmes habituels de Chagall, à savoir son village juif Vitebsk, les angelots, les couples enlacés, les têtes à l'envers. Donc, si vous voulez, exactement comme la tête à l'envers, c'est un peu une narration à l'envers. On ne peut pas parler d'une narration linéaire. C'est une narration qui part de certains thèmes qu'on peut jouer avec et les reconstituer de la façon dont le spectateur et son imagination fonctionnent.
Si on regarde bien toute l'œuvre, il y a un fil conducteur dans son œuvre, il y a une récurrence d'un motif qui est, je dirais, systématique.
Marc-Alain Wagnin, rabbin et philosophe.
Et ça me rappelait une citation de Jean-Louis Jacques qui dit « Il peut arriver qu'un mot, un seul, caché dans le corps d'un livre ou d'une œuvre, en soit comme le sceau mystérieux. On dirait alors que le secret dont chaque page du livre ou de l'œuvre expose un fragment, à la fois lumineux et obscur, réside, concentré à l'extrême, dans la musique et le dessin des quelques syllabes de ce mot. » Si ce n'est pas un mot, c'est une image chez Chagall qui est justement peut-être le sceau mystérieux dont chaque tableau en est un fragment. Je pense, si vous voulez, qu'il y a eu un traumatisme. Le mot traumatisme n'est pas nécessairement négatif. Traumatisme ici, c'est-à-dire quelque chose qui a ébranlé, un bouleversement, un moment à la fois fort, bouleversant, du petit Marc Chagall, qui s'appelle pas du tout Marc Chagall, en fait. Son vrai nom, c'est Moïse, en yiddish, c'est-à-dire Moïse. Moïse Zakharovitch Chagallov, c'est-à-dire Moïse, fils de Zecharia, qui est le nom d'un prophète biblique. Et c'est très intéressant parce que Zakharovitch, c'est un mot hébraïque qui signifie le souvenir, la mémoire. Ani Zocher, ça veut dire je me souviens en hébreu. Zecharia, ça veut dire le souvenir de Dieu. Donc il a dans son nom, qui est le nom de son père, puisqu'il est le fils de celui qui est porteur de mémoire, quelque chose qui va en fait mettre en œuvre réellement, puisque toute son œuvre est la manière de porter la mémoire de sa ville natale, de son enfance, des textes étudiés dans son enfance, de ses amis, de ses maîtres. Et donc c'est véritablement un homme qui a une grande valise avec plein de souvenirs dedans. À chaque fois qu'il fait un tableau, il ouvre sa valise de souvenirs et il nous en offre quelques fragments.
Chacun de nous est né quelque part, il est entouré des objets de la famille. Il y a des peintres comme le grand Claude Monet, qui était entouré des arbres, il faisait des arbres. Et moi, j'ai vu des vaches, j'ai vu le pendule quand j'étais enfant. Ils sont entrés comme dans votre cœur est entré des objets de votre maison de parents. En moi est entré ces objets. Et voilà l'histoire des présences sur mes tableaux de tel ou tel objet. Ce sont des choses avec quoi j'ai construit un tableau comme vous, si vous êtes un peintre, vous pouvez construire avec des objets que vous avez de votre naissance, vous avez vu. C'est tout. Bien sûr, il y a des impressions dans votre vie après, aussi très importantes. Il y a des guerres, par exemple. Il y a des camps de concentration, il y a le mariage, il y a l'amour. Ça, c'est des choses très importantes. Ça vous emporte encore des objets, des situations, des états d'âme, si vous voulez. Mais la base est surtout des choses que vous recevez dans la maison de vos parents. Telle, là-bas où vous êtes né, vous emportez avec ce bagage.
Quand Marc Chagall arrive aux États-Unis en 1941, il n'en est pas à son premier exil. Avec Béla, son épouse, il quitte la France, contraint de fuir le nazisme, pour rejoindre le pays de Roosevelt, comme de nombreux autres intellectuels français. Béla y meurt en 1944 et c'est toujours là que Marc Chagall peint autour d'elle.
À cette période-là, Chagall se trouve encore aux États-Unis. Il fait partie de ces artistes que la situation mondiale a fait qu'il a dû partir de la France pour les États-Unis en tant qu'artiste juif. Il est parti très tard. C'est intéressant de savoir qu'il est parti qu'en 1941, sans doute parce qu'il faisait partie de ceux qui croyaient que, premièrement, la France est devenue sa patrie, sa partie d'adoption, et en même temps, il ne croyait pas que ça peut arriver en France. Il était bien sûr au courant de ce qui se passait en Allemagne, il était au courant de la guerre, bien évidemment, mais il pensait que ça s'arrêtera là. Et finalement, on lui a fait savoir qu'il vaut mieux quand même qu'il s'embarque le plus rapidement possible. Il est parti aux États-Unis, il est aux États-Unis à partir de 1941, et c'est une sorte de double exil, si vous voulez, puisque il s'est installé vraiment en France. Et là, à cause de la guerre, il est obligé de se trouver à New York. La situation économique qu'il a n'est pas mauvaise, puisqu'il est reçu par Pierre Matisse, puisqu'il y a des expositions. Donc sur ce plan-là, on ne peut pas dire qu'il est misérable. Mais on sent qu'il ne s'adapte pas vraiment, qu'il est là-bas. Il est là-bas de façon temporaire, parce qu'il voit des artistes français à New York. Bon, il ne parle pas anglais, qui est un problème. Heureusement, à New York, on peut se débrouiller avec l'yiddish, donc il fait ça. Mais ça n'a rien à voir avec la façon dont il se sent chez lui, vraiment par choix, en France.
Le yiddish, c'est essentiel pour Chagall. C'était sa langue paternelle, sociale, sa langue d'études. Je pense que toute sa vie, il a vécu dans le yiddish, même si il a appris à parler français, mais il le parlait avec l'accent russe et avec l'accent yiddish. Mais le yiddish, c'est la langue de l'intime. C'est la langue de l'intime, c'est la langue de la vérité. Freud raconte cette histoire. C'est une femme qui est en train d'accoucher. Elle crie en allemand « Docteur, docteur, j'ai mal, j'en peux plus, c'est maintenant, j'en peux plus. » Et puis elle continue « Docteur, j'ai mal, c'est maintenant, j'en peux plus. » Mais elle continue à crier, à pleurer, à appeler en allemand. Et au bout d'une heure, elle appelle, mais elle dit en yiddish « Docteur, j'ai mal. » Alors le docteur dit « C'est maintenant l'accouchement. » C'est-à-dire la langue de vérité. Mais ce qui est beau avec le yiddish, étant donné que bon, la majorité des Juifs qui se sont retrouvés à la fin du 19e et du début du 20e siècle se sont retrouvés aux États-Unis, sont passés par Ellis Island en fuyant les pogroms, et ils ont créé une diaspora juive à travers le monde et en particulier aux États-Unis. Mais tous ces Juifs d'Europe de l'Est parlaient le yiddish, c'était véritablement leur langue de culture. C'est pour ça qu'il n'a pas appris l'anglais, c'est pas parce qu'il n'a pas voulu, c'est parce qu'il n'en avait pas besoin.
Mais le yiddish, ce n'est pas seulement une langue que l'on parle. C'est aussi la langue que Chagall a choisie pour écrire sa poésie, qui, comme sa peinture, évoque son village natal.
Mein weite Heim.
La ville.
Es klingt in mir die Stadt, die weite, die Kloisters weiß in die Schulen.
Elle sonne en moi. La ville au loin.
Die Tür ist offen.
Ses synagogues, ses églises blanches. Porte ouverte. Le ciel fleurit, la vie s'envole. Elles languissent en moi, ces ruelles tortueuses, les tombes grises de la colline, leurs pieux morts enfouis. Couleurs et taches, ombres, lumière. Mon tableau là-bas. Je veux m'en couvrir le cœur. Ne me cherchez aujourd'hui ni demain. Je suis parti loin de moi. Je suis dans une fosse de larmes.
En bas, enfin plutôt au centre de ce tableau, on trouve en Vitebsk. Étrangement, On a l'impression que c'est une vision nocturne, mais en même temps, on voit un ciel tout à fait bleu avec la ligne qui se trouve au milieu, avec un entassement de petites maisons, maisons moyennes. Alors, description, non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une vision de Jérusalem céleste ou de Vitebsk. On peut voir éventuellement une sorte de cathédrale qui se trouve au fond, mais ça pouvait être n'importe quel village dans cette zone dans laquelle les Juifs étaient obligé d'habiter. Donc, ce n'est pas un petit village. Il y a une sorte de fantasme par rapport à ça. Vitebsk, en fait, était un bourg relativement important, d'autant plus qu'il se trouvait sur la croisée des lignes de train. Donc, c'était quand même un bourg assez important. Mais quand on regarde ces images, non, je ne crois pas qu'il y a vraiment une description de Vitebsk. Mais par contre, on trouve pratiquement toujours la même image, puisque déjà, dans les images à partir de 1910, c'est une sorte de Jérusalem céleste, située sans doute en Russie. Ça pouvait être n'importe où en Europe de l'Est, puisque c'est un peu la structure de maisons qu'on trouve dans cette zone-là. Il y avait des raisons pour lesquelles Chagall quitte Vitebsk. Je commencerai par la seconde. Sa nécessité d'aller à Saint-Pétersbourg, après à Moscou, après à Paris, était l'attirance qu'il y avait une grande quantité des artistes dans cette période-là, des centres artistiques qui étaient tantôt Paris, puis Munich, puis Berlin, etc., mais essentiellement Paris. Donc il y avait cette nécessité de voir ce qui se passe, encore qu'il faut ne pas exagérer, puisqu'il y avait une avant-garde en Russie, mais visiblement, il avait besoin d'aller quitter Vitebsk ou ça. Et la seconde raison, bien sûr, c'était le fait que la société juive à Vitebsk ne considérait pas le travail artistique comme quelque chose qui fait partie, je dirais, de ce que la société juive admettait, entre guillemets. Et la position de Chagall est tout à fait étrange, et c'est Pierre Schneider qui l'explique de la plus belle façon. Il dit que pour peindre, il était obligé de quitter Vitebsk, mais il emporte en quelque sorte Vitebsk avec lui, puisque c'est la source de son imaginaire. Mais peut-être aussi cette nostalgie que le retour ne pouvait être qu'une déception. Donc, à la limite, cette façon de garder la nostalgie toute sa vie, c'était par rapport à un endroit où il savait qu'il a retrouvé ou trouvé ses sources, mais où il savait qu'au moins au début, il fallait qu'il s'éloigne pour pouvoir pratiquer librement. Un exemple tout bête, je veux dire, une image comme le crucifié, c'était absolument impensable à Vitebsk. Et il a d'ailleurs mis un certain temps de quitter Vitebsk pour faire ça pour la première fois. À la suite, il y aura toute une série de Christ, mais Christ juif, avec les talits, etc. Mais il fallait quand même s'éloigner de Vitebsk pour le faire.
Vous savez, c'est formidable. Je suis passé de Vitebsk, la Russie, 4 jours a duré le voyage. Je suis rentré et Gare du Nord, j'étais ébloui par tous ces cafés et tous ces gens qui sont assis, une luminosité qui c'était. Les impressionnistes ont montré ça et puis les premiers, les artistes avant 14, ont montré ces luminosités. De le nez, le jet, mon nez, tout ça, j'étais ébloui, le premier éblouissement de ma vie, ça il faut dire. Depuis j'ai senti que c'est fini, je dois vivre et mourir en France.
Vous êtes français?
Bien sûr. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je serai? C'est pas turc, moi. C'est français. Je suis né en Russie. Je ne suis pas un type qui s'est sauvé d'un pays pour des raisons. Je suis allé à Paris pour chercher la couleur bleue et le blanc, et toutes ces couleurs que j'ai senties qui sont ici en France.
Comme souvent, la couleur dominante de ces tableaux est bleu, un peu partout, avec des différentes nuances. Bleu nuit du côté gauche, un bleu moins foncé sur le côté droit, sur le côté supérieur, donc qui correspond en quelque sorte dans les cieux.
Et bleu, en hébreu, il se dit kachol. Kachol, ça veut dire comme le sable. C'est-à-dire comme les millions de millions de millions de grains de sable. Donc ça veut dire un petit peu, c'est l'infini. Et donc, quand on veut représenter quelque chose d'infini, comme le ciel qui est en hébreu, le ciel se dit Shamaïm. Et Shamaïm, ça veut dire le là-bas du là-bas. Et quand vous allez là-bas, on vous indique où il faut aller, vous dites, oui, où faut-il aller? On vous dit là-bas. Et quand vous allez là-bas, vous demandez, mais maintenant, il faut aller où? On vous dit là-bas. Là-bas, c'est exponentiel. Il faut toujours aller dans le là-bas du là-bas. Le là-bas du là-bas, c'est l'infini. Et cet infini, je pense qu'elle a une couleur bleue. Non seulement parce que le ciel est bleu, mais parce qu'en hébreu, ce bleu kachol, c'est comme l'infini des grains de sable de la mer, si vous voulez.
Si le bleu est un élément récurrent dans la peinture de Chagall, il est une autre figure courante dans ses tableaux, celle du peintre. Ici, au premier plan, représentée la tête renversée, une palette à la main.
La palette avec la peinture et les pinceaux. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai trouvé une gouache qui reprend exactement le même motif, mais qui, à la place de la palette, a mis un livre. La gouache, elle a été faite en 39-43. Donc, il y avait quelque chose d'une sorte de préparatif à la gouache de ce tableau, puisque c'est véritablement le même tableau, mais le peintre, au lieu d'avoir une palette et des pinceaux dans la main, a un livre. Cette équation du livre et de la palette est absolument non seulement fondamentale, mais fondatrice de l'œuvre de Chagall. Comprendre Chagall, c'est comprendre que le peintre peint avec le livre.
J'ai pris la Bible parce que instinctivement, je suis attiré vers cette source dans laquelle je vois le commencement de tout le commencement. Je suis attiré non seulement par des raisons plastiques, formelles, mais parce que je vois là ce qui dépasse les frontières et qui forme un message. Je n'ai pas vu souvent, sauf dans la nature silencieuse, si on peut dire, une autre source de la création humaine comme la Bible. Et je suis toujours reconnaissant à mes parents qui, pauvres gens, m'ont conduit inconsciemment sur ce chemin à tel point que ma maison et ma ville ont été pour moi les plus hautes académies de l'art et de la vie.
Dans le tableau autour d'elle, en haut à gauche, il y a une colombe qui tient un bougeoir. Cette colombe qui sort de la fenêtre, il l'a illustrée beaucoup plus tard dans sa série sur la Bible. C'est la colombe qui sort de l'arche de Noé. Car Noé voulait savoir si le déluge était terminé. Il envoie un corbeau, il envoie une colombe qui va venir, partir, et puis quand les oiseaux ne reviendront plus, il saura qu'ils ont pu poser leurs pieds ailleurs, que l'eau est suffisamment descendue et que le déluge est terminé. Mais cette colombe de l'arche de Noé, elle est importante parce que le mot arche en hébreu, teva, veut dire aussi le mot. Et quand, dans le texte de la Genèse, Dieu dit à Noé, fais-toi une arche pour te sauver de la destruction du monde, c'est-à-dire fais-toi un mot pour te sauver. C'est le mot qui sauve, c'est la langue, c'est la poésie, c'est la littérature. Et chez Chagall, la colombe, elle sort du mot avec la lumière, avec la bougie qui va illuminer le monde, parce que la colombe a pris suffisamment de mots pour créer toute une poésie. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on ait trouvé une gouache où la palette du peintre est remplacée par le livre. Mais en même temps, on est en 45, c'est la fin de la guerre. On peut imaginer aussi que cette notion de colombe vient dire la fin de la guerre, puisque la colombe est le symbole de la paix, représenté à l'époque, on retrouve chez Picasso et d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte un bougeoir dans la main. Or, le bougeoir, c'est la tradition dans le judaïsme d'allumer une bougie pour le deuil. On allume en souvenir de la personne qui est disparue, on allume une bougie et on a l'impression que la colombe en haut à gauche allume une bougie à l'image de Béla, c'est pour se souvenir. La bougie dans la main de la colombe, c'est la bougie du souvenir.
La bougie portée par la colombe, celle du deuil, on pourrait imaginer qu'elle est dédiée, comme le veut la tradition juive, à sa femme Béla, rencontrée à Vitebsk en 1909. Béla habitera le cœur et les tableaux de Chagall pendant 35 ans et au-delà de sa mort. Quand il peint ce tableau, cela fait un an que Béla est partie.
Béla. Dein weiße Kleid schwimmt über dir, die Blumen meine bleiben nicht geriert.
Ta robe blanche flotte au-dessus de toi. Ces fleurs, mes fleurs, restent intouchées. Ta pierre devient luisante, mouillée. Et moi, je deviens gris comme la cendre. Aujourd'hui, comme hier, je te demande si tu restes ici ou si tu viens avec moi. Vois, mes pas sont entremêlés de pleurs. Que me dis-tu? Je veux t'écouter dire. Comme notre dais nuptial a été rouge, rouge est notre amour pour le peuple chez nous. Va les réveiller avec notre rêve. De même que les champs sur mon corps sont verts et que chaque nuit les étoiles m'envoient leurs éclairs. De même, tu me reviendras un jour.
Dans le tableau autour d'elle, la douleur de l'exil se mêle à celle de la perte de l'être aimé. Marc Chagall serait-il alors un peintre de la mémoire?
Je ne sais même pas si c'est mémoire. Moi, je dirais c'est nostalgie. Et cette nostalgie, elle vient parce qu'on est en exil. Et parce qu'on est en exil et qu'on a la nostalgie, on va chercher à se souvenir. Et donc, à créer un livre de souvenirs pour qui Chagall, c'est son œuvre. L'exil, qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Quelqu'un qui part d'un endroit et qui se trouve bien dans un autre endroit, pour lui, c'est pas un exil, c'est une terre d'accueil, c'est un endroit magnifique. Donc, la nostalgie, c'est un lieu qui est animé ou indexé par la souffrance de ne pas être dans le lieu où l'on voudrait être. Et lui, il est content d'être à Paris, mais il y a quelque chose qui le rattache à sa ville d'enfance. C'est plus l'exil d'un temps perdu que d'un lieu perdu. C'est l'exil de l'enfance. Et quand il restitue Vitebsk et ses habitants, il restitue l'enfance. Et la preuve en est, ce qu'il restitue, bien sûr, ce sont les maisons, bien sûr, ce sont les personnages qu'il a rencontrés, mais ces personnages sont plus des personnages qu'il a rencontrés dans les livres, c'est-à-dire ceux qu'il a rencontrés à l'école maternelle, l'école primaire ou au lycée, dans les livres de tradition juive, comme le prophète Élie, qu'il rencontre à la fois dans les légendes et dans la Torah, tous ces gens, que ce soit les mariés de la Tour Eiffel, le couple au-dessus de Vitebsk, tous ces gens dans les airs, qu'on appelait le Luftmensch, ce sont des variations du prophète Élie qui s'envole sans mourir, c'est-à-dire c'est l'immortalité. Et ce que veut Chagall, c'est pas l'immortalité de l'homme Chagall, c'est l'immortalité de l'enfant qu'il fut et qu'il ne veut pas laisser mourir. Donc il y a quelque chose de très joyeux, de très enfantin, pas adolescent, mais véritablement enfantin.
C'est en quelque sorte le fameux personnage de Luftmensch, ça veut dire l'homme qui marche dans l'air, ça veut dire l'homme qui a des racines qui existent mais qui ne sont pas plantées. Donc je pense qu'effectivement, les voyages en quelque sorte, ou les désexils, au moins des exils de Chagall, correspondent à situation de son peuple dans la première partie du XXe siècle et effectivement, c'est pas par hasard que Chagall est considéré comme une sorte d'emblème de la peinture juive au XXe siècle de façon générale. C'est à la fois parce qu'il partage cet exil, même si les conditions sont différentes que peut-être pour d'autres, et aussi parce qu'il a inventé une figure de style qui est celui de l'homme qui marche dans l'air, qui est une figure de style qu'on trouve non seulement dans sa peinture, mais aussi dans la culture juive de façon générale, essentiellement dans l'écriture. Et je pense, en tant qu'historien d'art, que l'histoire de l'art ou de la production artistique, elle a souvent une valeur quand elle trouve son écho ou quand elle est en phase, en quelque sorte, avec les autres domaines de la culture, puisque c'est aussi elle qui participe à la création de cette culture.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de l'émission Un podcast, une œuvre du Centre Pompidou. Réalisation et production, Seam Goutata. Montage, Alexandra Longuet. Mixage, Yvan Gariel. Éditorialisation et production, Clara Gouraud. Nous remercions tout spécialement Marc-Alain Waknin et Itzhak Goldberg pour leur intervention. Valentina Fitchenko pour ses lectures des poèmes de Marc Chagall en yiddish. Et Emmanuel Lemire pour la lecture de ses traductions françaises. Rendez-vous très bientôt avec un nouvel épisode de la saison Art et Exil.